rappelle avoir entendu ou lu le mot science-fiction. Série de nouvelles.
Je crois qu'elle s'appelait science-fiction la collection.
Ah, alors c'est la notion. Dans ces conditions, l'exposition correspond bien à la découverte de ce roman, d'ailleurs, par un premier excellent qui a plutôt bien vieilli. J'ai découvert d'autre part, dans une revue scientifique très importante de l'époque, France Dimanche, une série de nouvelles de science-fiction. Qui était publié par une équipe assez improbable qui contenait Pierre Caste, France Roche, qui était l'ami de Pierre Caste et qui était journaliste, et autour de laquelle devait graviter Michel Pilotin, qui est plus connu sous le nom de Stéphane Spriel. Et une dizaine ou une douzaine de nouvelles de science-fiction, toutes américaines, pourtant que Pilotin, en tout cas toutes anglo-saxonnes. Ont été publiés dans France Dimanche. Alors, comment j'ai découvert ça, je serais bien incapable de vous le dire, parce que je n'étais pas un lecteur régulier de France Dimanche, et tout le temps que cette série a paru, j'en suis devenu un lecteur assidu. Ensuite, à peu près en même temps, a dû commencer à paraître la collection Anticipation du Fleuve Noir, que j'ai découvert chez un petit bouquiniste proche de la banlieue dans le 9-3 où j'habitais et que j'ai dévoré, puis les rayons fantastiques, et puis surtout à partir, je crois, de 1953, la revue Fiction, qui oscillait entre science-fiction et fantastique. Bernard qui présentait clairement et majoritairement la chose. Alors, quand est-ce que le premier numéro est sorti, Joseph?
Oh, c'est 53, effectivement. Bon, peut-être que j'ai quelque chose comme ça, je ne sais plus la date. Donc, en fait, c'est une découverte. Vous n'avez pas découvert alors, la science-fiction parce qu'ils ils ont parlé texte. Qui ne possédait pas cette étiquette en France. Parce que là, il s'agit donc de la science-fiction américaine.
Oui, pour l'associer très rapidement dans la fiction. Non, alors, en fait, dès avant ça, enfin, parce que ce que tu me demandais, et moi plus vous,
alors, tu oui, d'accord,
c'est à mon endroit, ça devrait être
bien. Oui, oui, notamment.
Je pense qu'on continue à nous tutoyer. J'avais lu avant un assez grand nombre de textes de science-fiction, alors que le terme ne me semble pas avoir été usité. J'ai lu très jeune, je devais avoir 7 ou 8 ans, Le Monde perdu de Conan Doyle. J'ai évidemment lu à peu près tout Jules Verne. J'ai lu les romans de science et voyage, en tout cas une partie des romans de science et voyage dans une collection incomplète, hélas, qui appartenait à mon oncle. Donc j'ai commencé à chercher dès cette époque chez les bouquinistes des marchés de la banlieue où j'habitais, fébrilement, des textes qui ressemblaient à tout ça. Donc j'étais déjà solidement acculturé quand j'ai découvert qu'il y avait un nom qui recouvrait tout ça. Et à partir du moment, j'ai lu énormément de choses, mais j'ai lu en particulier entre 8 ans à peu près, 11 ans, beaucoup de romans policiers, plus ou moins bons d'ailleurs, connaissais avant, puis j'ai découvert dans la foulée le terme de science-fiction, on peut dire entre 1951 et 1953. Pendant 1951, j'avais 14 ans.
Est-ce que c'est, je suppose que la réponse est oui, mais dans quelles circonstances? Est-ce que c'est la revue fiction qui t'a poussé à écrire, par contre, de la science-fiction, ou est-ce que tu as d'abord écrit autre chose?
Oui, j'ai écrit auparavant à des bricoles, j'ai écrit en particulier, j'ai une œuvre poétique assez considérable, dont j'ose espérer qu'elle disparaîtra jamais. La grande crainte serait qu'on la retrouve. Bon, comme moi-même, j'ai pas réussi à mettre la main dessus, je peux pas la détruire. C'est un des grands soucis. Mais il est certain que l'apparition des revues, pas seulement de fiction, mais de galaxies, m'ont suggéré qu'il était possible d'écrire et même d'être publié. D'ailleurs, au tout début de fiction, je devais avoir 13 ou 14 ans, j'ai écrit une ou deux nouvelles que j'ai envoyées à Maurice Renaud, qui m'a répondu très très gentiment, d'ailleurs, en me disant, je sais plus très bien ce qu'il m'a répondu, et je ne suis pas sûr d'avoir gardé la lettre, enfin je devrais, mais je saurais, qui m'a répondu donc très très gentiment, peut-être que ce n'était pas tout à fait au point, mais qu'il restait très attentif à ma production ultérieure, ce qui fut le cas. J'ai envoyé un peu dans le même esprit une nouvelle à la revue Galaxy, et quelques mois après, j'ai eu la grande surprise, le premier Galaxy, j'ai eu la grande surprise en achetant le Galaxy en question, de voir que cette nouvelle était imprimée, même qu'elle figurait en page du titre, en couverture.
Juste le paiement, c'est tout.
Alors c'est ça, alors je suis allé le chercher, c'est un peu étonné de voir arriver un auteur. C'était les éditions Nuit et Jour, c'était une maison d'édition scientifique qui publiait Radar.
Excellent.
Et qui publie, on n'a jamais très bien compris pourquoi Galaxy, eux non plus d'ailleurs. Enfin, ils étaient très étonnés de voir arriver un auteur qui devait avoir 16 ans ou 17 ans au maximum. Et après un long conciliabule dans un bureau éloigné, on m'a ramené un chèque de 30 francs de l'époque et deux exemplaires de la revue. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à gagner ma vie. Donc, lui, ça a un peu précipité les choses parce que Dorémieux, avec qui j'étais entré en relation par l'intermédiaire de Maurice Renaud, avait quelques textes de moi sous le coude et rechignait un peu à les publier. Enfin, ça prenait et ma publication dans Galaxy en octobre ou novembre 1955 a précipité les choses puisque mon premier texte est paru dans Fiction. Je le crois en février ou mars 1956. Pardon ? Alors, la toute première nouvelle qui n'est pas très bonne, qui est parue dans Galaxy, s'appelait Une place au balcon. Et la toute première nouvelle qui est parue dans Fiction s'appelait, qui a été d'ailleurs très souvent reprise, enfin, c'est l'histoire de cette maison au milieu d'un paysage apocalyptique où on trouve des livres anciens qu'on prend pour très sérieux et qui sont pour l'essentiel des bandes dessinées. Je me souviens plus du titre là. Ah, oui, elle est reprise dans mon dernier recueil, Mémoire morte. Bon, le titre n'en vient pas. Il y a prescription. Mais c'est une bonne histoire parce qu'elle a été très très souvent reprise. Et ce qui m'a étonné, c'est que plusieurs commentateurs ou présentateurs de cette nouvelle lors de reprise, où je n'étais pas du tout intervenu, la considéraient comme très récente, comme très moderne, alors que donc elle a dû paraître en 1956 initialement. Vous n'étiez pas né pour la plupart.
Alors, quel est le... Je pense que tu as dû rencontrer... apparaître sous la sous l'influence de l'apparition des éditoriaux fantastiques. On a la collection Présence du futur. Il y a toute une série de collections qui apparaissent avec l'arrivée massive de la science-fiction américaine. Quelles sont les questions que tu te poses d'abord sur cette science-fiction américaine qui arrive, si on s'en pose? Est-ce que tout de suite on la raccorde à la science-fiction française qui, elle, bon, elle ne portait pas ce nom de science-fiction, mais qu'on pouvait repérer, comme tu en parlais à propos de Science et Voyage, par exemple, d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il se posait déjà, comme c'est encore le cas aujourd'hui largement, des questions de statut, des questions de définition sur ce qu'était la science-fiction? Quel type de science-fiction? Parce que tout ça a été à mettre dans le même sac, hein, l'américaine, la française, des choses populaires, des choses qui se valaient plus intellectuelles. Comment s'est développé le débat? Comment as-tu connaissance de ce débat déjà? Est-ce qu'il y en a eu un?
Bon, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de débat, enfin, de cette nature. Pour moi, il était évident que ce qui paraissait est de qualité très inégale dans la collection Anticipation du développement, dans la collection du rayon fantastique, puis dans la collection Présence du futur. Tout ça, ça a démarré en 2 ou 3 ans. C'est extrêmement concentré. Donc tout ça était, je ne dirais pas en continuité, mais en tout cas en contiguïté avec les traductions de Conan Doyle ou de Wells, ou les romans de Marjavel comme Ravage ou Voyageur imprudent que j'avais pu lire auparavant ou en même temps. Enfin, c'était, bon, on ne se posait pas tellement la question. Enfin, je ne me souviens pas de m'être posé la question de la définition d'un genre particulier. Ça existait, enfin, et puis c'est tout. Donc, j'avais pris contact avec fiction, mais dans fiction, alors ça a été décisif. Dans fiction, j'avais trouvé probablement en 1953 ou en 1954 une publicité pour une petite publicité pour une librairie qui s'annonçait comme spécialisée dans la science-fiction, La Balance, située rue des Beaux-Arts. Et bah, j'ai pris le train, j'ai pris le métro, je suis allé rue des Beaux-Arts et je suis tombé sous la librairie de La Balance où je devais avoir soit 16 ans, soit au plus tard 17 ans, ça pouvait être au début de l'année du bac, donc de l'année 17, de mes 17 ans, j'ai rencontré d'un coup d'un seul Valéry Schmitt, évidemment, Jacques Bergier qui tenait salon dans un fauteuil au fond de la librairie, Pierre Versailles qui était peut-être là, ou s'il n'était pas là la première fois, je l'ai rencontré la deuxième ou la troisième fois que je suis venu, François Borde, c'est-à-dire Francis Carsac, enfin, bon, d'un coup d'un seul, Philippe Curval, Jacques Sternberg, je suis sûr qu'il était là la première fois que je suis venu, et nous avons tout de suite immédiatement sympathisé. Je suis resté gentil, timide, inquisiteur, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'hésitais pas à poser des questions. Donc, je me suis trouvé là. Et puis Michel Pilatin, qui s'exprimait très difficilement parce qu'il avait été opéré de la horte, que je m'efforçais d'entendre. J'étais bien le seul encore à l'écouter parce que le pauvre parlait très difficilement. Il était d'abord qu'une douzaine de pieds réunis. Ben bon, bref, j'ai rencontré d'un coup d'un seul le Gotha de la science-fiction à l'époque. Sans négliger Pierre Caste, qui venait de temps en temps, pas très souvent, Michel Butor, qui qui sont moins généralistes, qui n'y sont, elles sont généralistes, mais elles font des choix, et les choix qui sont faits sur les 50% premiers numéros de ces collections, ça, je n'ai jamais fait, mais ça va être très intéressant à étudier, parce que c'est pas n'importe quoi, puis Marabout, puis etc. Donc, alors, la grande littérature, la vraie littérature, s'efforce d'échapper à ce genre de classification, que ce soit chez Gallimard, que ce soit chez Minuit, que ce soit chez Julliard, etc. Mais il n'y échappe pas totalement, d'ailleurs. Les signatures d'éditeurs correspondent à Julliard et Gallimard, et Minuit, ce n'est pas la même chose. Donc on pourrait aller jusqu'à dire que les signatures d'éditeurs seuil ou combien définissent les espèces de collection, enfin de super collection.
Est-ce que tu vois une raison sérieuse, quand tu dis s'efforce d'échapper à ces catégorisations, est-ce que tu aurais une raison qui à cela, puisqu'apparemment les catégorisations semblent utiles aux lecteurs et agréables aux écrivains?
Agréable aux écrivains, j'en sais rien. Et d'autre part, il faut se replacer dans un contexte où j'avais, disons, entre 14 et 18 ans et où je ne me posais pas tout à fait les questions dans ces termes-là. En particulier, même un peu plus loin dans le temps, il y a eu certainement chez de grands éditeurs de donc la littérature avec un L majuscule, le désir d'échapper à toute catégorisation, ce qui ne les empêchait pas du tout d'introduire de telles catégorisations. Après tout, c'est Gallimard qui fait la série noire, c'est Gallimard qui, derrière le faux net de Noël, fait présent du futur, c'est Gallimard qui, avec Hachette, fait le rayon fantastique. Il y a une idée qui subsiste toujours aujourd'hui, d'ailleurs, enfin qui à l'époque n'avait pas spécialement frappé, que la littérature avec un L majuscule peut s'abstenir de toute catégorisation.
Tout ce que tu dis est très intéressant, parce qu'aujourd'hui encore, dans il me semble, c'est un discours qui est tenu assez régulièrement.
Tout à fait,
au fond, sans te rapport, tu me dis exactement le contraire, hein, en tant qu'éditeur et écrivain.
Bah, je ne sais pas si je dis exactement le contraire. Ce que je dis, c'est que ces éditeurs, à partir du moment, de toute façon, c'est un problème de marketing qui avait été repéré bien avant la Seconde Guerre mondiale, y compris en France, en particulier par Grasset, par Germain Grasset. Quand ces éditeurs pensent et éventuellement savent qu'il y a un public déterminé, ce qu'on appelle un segment en termes de marketing, ils estiment, et ils ont très certainement raison, qu'il vaut mieux définir une collection et adapter présentation, contenu, texte, etc. À ce segment. Bon, quand ils estiment que le segment qui est parfois rare et difficile à trouver, c'est la soi-disant haute bourgeoisie cultivée, il n'est pas nécessaire de définir une collection particulière parce qu'en soi, l'absence de définition circonscrit une collection.
D'accord. Donc on a l'étiquette non-collection.
Oui, alors c'est plus compliqué que ça parce que si on regarde par exemple la production de Gallimard de l'époque, voilà, si on a les romans, oui c'est vrai, mais enfin, il y a déjà des distinctions romans, poésie, les bibliothèques. ça spécifié leur production par domaine, en faisant l'hypothèse que, encore une fois, ça correspond à des segments.
Chose qui permet de reconnaître clairement, le plus clairement possible, pour que ce soit visible pour le lecteur, un texte. Donc c'est quelque chose qui reste, non seulement qui reste, mais qui peut-être est.
Il y a des domaines où c'est indispensable, et c'est le cas depuis très longtemps.
Ma question était posée à question parce que je, dans de nombreux domaines, on entend, enfin, de nombreuses occasions, on entend cette réflexion, il ne faudrait pas que ça va, l'étiquette, notamment, on parle de science-fiction, puisque c'est un peu le sujet, l'étiquette gêne, alors que certains considèrent qu'il faudrait mieux que l'étiquette se dilue, disparaisse, n'apparaisse plus, ou le mieux de soit absente. Donc, ce n'est pas du tout ton point de vue. Le point de vue inverse est défendu des fois avec une grande âpreté absolument volante.
C'est presque un autre débat. Je pense qu'en effet, des textes qui relèvent plus ou moins de la science-fiction peuvent paraître sans étiquette, mais il y a un prix à payer. Et comme la description qui me paraît très lourd, comme la description de ce prix risque de prendre plusieurs heures, je suggère que nous revenions au sujet principal.
Alors donc le sujet principal.
Alors, pourquoi et comment la collection Ailleurs et Demain ? Bon, alors, comme toujours, il y a une grande part de contingence. Quand je suis rentré, avant ça, j'avais publié, donc chez de Noël, j'avais publié au Rayon Fantastique, j'avais publié au Fleuve Noir, j'avais publié dans Galaxy une fois, j'avais publié dans Fiction, beaucoup de nouvelles et beaucoup d'articles, et soit des articles critiques assez réduits, soit des essais, enfin des articles plus synthétiques, un peu plus développés, que j'espère d'ailleurs pouvoir publier prochainement une sélection. Et puis je suis parti en Algérie. Sans qu'on m'ait véritablement demandé mon avis. Enfin, quand je suis rentré en 1963, disons, j'ai trouvé une situation de l'édition dans le domaine de la science-fiction assez catastrophique, et en particulier catastrophique pour les auteurs français. Le rayon fantastique avait disparu, ou allait disparaître, je crois que c'est en 64 qu'il disparaît. Présence du futur ne publiait pratiquement plus d'auteurs français. Canters ne s'intéressait pas du tout à cette collection, continuait à la publier un peu par inertie. Le fleuve noir était le fleuve noir, ça continuait, mais enfin, c'était quand même pas extrêmement encourageant. Donc, ceux qui je connaissais, pour les avoir lus en anglais, parce que j'avais appris l'anglais dans l'intervalle, un assez grand nombre de textes qui ne trouvaient de place nulle part, et je supposais qu'il y avait un assez grand nombre d'écrivains français qui pouvaient écrire des textes de qualité et qui ne disposaient d'aucun débouché. Donc, à partir de 63-64, à partir de 63-64, je me suis mis assez naïvement en tête de proposer, enfin d'inciter un éditeur de la place à créer une collection qui soit ouverte à des textes de très bonne qualité et dans des conditions économiquement viables. Hein, parce que le poche ou le demi-poche façon présence du futur, ça ne tenait pas la route, ni pour les traducteurs, ni pour une certaine intelligence et des choses pratiques. J'ai fait le tour des maisons d'édition parisiennes en leur suggérant de créer une telle collection. J'ai même, je disposais pas mal de relations à cause de mes fonctions d'économiste et d'appui à droite et à gauche, eu des contacts avec le ministère de la Culture. Vous pouvez imaginer quel effet considérable ils ont eu. À ce propos, moi, je ne peux pas résister au plaisir de citer une anecdote. Je dépose un dossier qui était très complet, qui avait été appuyé enfin, par une personnalité, etc., à ce qui s'appelait des lettres. Disons que c'était l'ancêtre du Centre national du livre, des lettres, hein, parce que longtemps ça s'appelait des lettres, c'est encore une autre histoire. Et donc, je dépose ce dossier, je n'ai plus entendu parler, on m'avait accueilli au ministère avec les tapis rouges et tout ce qu'on peut imaginer, en me félicitant, moi, dans mes efforts en développement de la culture et tout le reste, et on m'a dit, bien entendu, on va examiner ça, et on vous donnera prochainement une réponse. Reçu, ce qui ne m'a pas franchement étonné. Et puis, 3 ou 4 ans après, le directeur du centre ou de l'organisme en question, qui était installé au fin fond du 16e arrondissement, me téléphone à la Caisse des dépôts où je travaillais, me fait téléphoner en me convoquant de façon extrêmement urgente pour le lendemain matin très tôt. Alors, je me dis, il va se passer quelque chose. Donc, je pose ma demi-journée, en réalité, je ne la pose pas parce que j'étais totalement libre, et je pars très tôt à cet endroit où j'attends au moins une heure ou deux sur un fauteuil, et puis le monsieur en question finit par me recevoir, et je vois que sur son bureau est posé mon dossier, et il me dit, monsieur Klein, j'ai tenu à vous faire venir parce que je veux vous communiquer une décision. Décidé de transmettre à mon successeur votre dossier. Je n'en ai plus jamais entendu parler. Et je reviens encore au ministère de la Culture de m'avoir fait lever tôt, ce qui est contraire à mes habitudes, et de m'avoir fait perdre une matinée à une époque où j'avais énormément de travail. Voilà. Donc je ne sais pas ce que le successeur a fait de mon dossier, mais grâce au ciel, il ne m'a pas convoqué à 9h du matin pour me dire qu'il allait communiquer à son propre successeur mon dossier. Et j'espère que ce dossier se retrouvera à la BNF pour le plus grand plaisir de notre ami Pierre. C'est mon Pierre. Je crains que non. Donc, je me suis un peu égaré avec cette anecdote, mais j'ai tourné, alors le film est arrivé. Absolument vraisemblable dans à peu près toute l'édition parisienne. Encore une fois, je disposais indirectement de pas mal d'appui, enfin, je savais pratiquement qu'à pousser une porte pour qu'elle s'ouvre. C'était quand même un des conseillers de François Bloch-Lenay, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Je faisais des travaux non négligeables à l'époque sur l'économie de l'urbanisme. Par la suite sur l'épargne des ménages, etc. Bon, je vous en passe les meilleurs, mais je ne vous épargnerai pas ma création du plan d'épargne logement, puisque c'est probablement mon plus grand titre de gloire. Donc je n'avais pas grande difficulté à pousser les portes, mais malheureusement, derrière, je ne trouvais que du coton. Un jour, comme je l'ai raconté 25 fois, ayant travaillé avec Jean-Pierre Mocky en 1963 à l'adaptation d'un roman de Jean Rey, La Cité de l'Indicible Peur, ayant donc travaillé avec Mocky, on était restés très amis et en fin 68 ou début 69, je rencontre Jean-Pierre Mocky qui déjeunait avec Robert Laffont, que je ne connaissais pas. En tout cas, pas personnellement, comme ça que ça a commencé. Alors c'est après évidemment que les difficultés ont commencé. Parce qu'il faut bien dire qu'au départ, mon intention était de susciter une telle collection, en tout cas une collection de science-fiction de grande qualité, si ça s'inscrivait d'ailleurs dans mon esprit dans un projet plus large. Mais il n'était pas nécessairement de la diriger. Je voulais que ça existe, mais j'avais suffisamment de travail enfin, et de projets par ailleurs. Et quand j'ai rencontré Robert Laffont, pour lui, il n'était pas question une seconde de confier la chose à quelqu'un d'autre. Donc il a bien fallu, quoi qu'il y ait au tout d'édition, il a bien fallu que je m'y colle. J'avais l'habitude, je ne travaillais que 26 heures par jour, donc ça a rajouté 2 ou 3 heures supplémentaires. Bon, c'est pas une façon de vivre, je ne recommande à personne. Enfin, on fait des choses comme ça. Et donc voilà, c'est comme ça que. Comment ça a commencé. Alors j'ai pu acheter très rapidement des livres que je connaissais depuis parfois quelques années. Vous n'avez qu'à regarder les débuts de la collection. J'ai raté des titres auxquels je tenais beaucoup parce que j'avais tellement fait le siège de la Noémie qui les a publiés chez Opta 6 mois avant que je dispose de la collection. Je pense au maître du château, les 4 ou 5 grandiques, l'essentiel est qu'ils aient été publiés, c'est pas ça. Et donc la grande innovation, c'était de faire une collection de grand format, de format normal, comme un livre se faisait à l'époque, et de prix normal, et ce qui permettait de rémunérer avec des tirages convenables, sans plus, convenablement. Vous connaissez la collection. J'ai imposé avec beaucoup de difficultés la présentation qui était inspirée, comme je l'ai dit souvent, d'une collection de disques de Philips, prospective 21e siècle, et avec également beaucoup de difficultés, le titre Ailleurs et demain, à la fond, on a accepté tout ça, m'a soutenu. D'en changer. Alors, au début, vous me posez une excellente question parce qu'au début, il fallait faire exister la collection. Donc, la proportion, en 60, elle commence en 69, mais en fait, il y a eu un titre en 1969 qui était Le Vagabond de Fritz Leiber. En 1970, ce sont tous des auteurs anglo-saxons. Principalement américain, mais il y a peut-être déjà Brunner, Farmer, Vance. Il y a des auteurs comme Farmer, par exemple, dont je sais que le Hausse que je publie est un livre mineur et dont je tiens à m'assurer la possible suite. Mais alors, dès 69-70, je fais le tour des auteurs français que je connaissais. Dirons-nous très mitigé. Alors pourquoi exactement, je ne sais pas. J'ai fait un tour avec ma machine revue dans le temps. Enfin, je ne reçois rien pendant longtemps. Si bien que je me décide à ouvrir le feu en publiant Les Seigneurs.